France Culture. Sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoie.
Et vous, quelle est la chanson qui vous fait pleurer, celle à laquelle vous ne résistez pas, ou celle peut-être qui vous met en joie, ou libère votre colère? Si on s'accorde tous à dire que telle ou telle chanson nous émeut, pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Et pourquoi la musique plus qu'autre chose? Paradoxalement, la musique a ce pouvoir d'exprimer nos émotions sans que l'on puisse en dire quelque chose. D'où lui vient ce pouvoir? Est-ce mécanique, intellectuel, corporel ou spirituel? Pourquoi donc la musique nous fait-elle pleurer?
Comment faut-il aimer la musique?
Passionnément ou pas du tout? C'est une chose extraordinaire d'habiter un pays qui a eu la première école musicale du monde, je ne sais pas, depuis déjà pas mal d'années. Et en même temps, elle n'est pas populaire en France. C'est donc une école isolée. Vous avez donc de très grands musiciens, de très grands génies, mais au fond, les intellectuels par exemple, les professeurs, sont insensibles très souvent à la musique. J'ai connu, mais ça c'est vraiment un phénomène français, de quantité d'hommes raffinés, de très haute culture, des collègues, bien sûr, je ne citerai pas, n'est-ce pas, mais de très haute culture, ayant énormément lu, raffinés à tous égards, mais totalement insensibles à la musique. Et ça c'est un phénomène français.
Bonjour Catherine Guède.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en esthétique, spécialiste des musiques populaires, docteur en philosophie et musicienne. On vous doit l'ouvrage collectif que vous avez dirigé Penser avec le punk qui vient de sortir aux éditions PUF. Vous avez aussi coécrit avec Pauline Nadrini The Most Beautiful Ugly Sound in the World à l'écoute de la noise. C'est paru aux éditions MF. Alors, ce n'est ni de la noise ni du punk que nous sommes en train d'écouter. C'est du Franz Liszt, consolation en ré bémol majeur. Est-ce que c'est typiquement le genre de musique à laquelle on pense quand on parle d'émotion en musique?
Alors effectivement, le 19e siècle est un peu le grand siècle de l'émotion en musique, le moment où on passe au paradigme de l'expression, hein, avec le romantisme. C'est un peu un cliché de le dire, mais l'idée que la musique serait ce moment où le compositeur exprime essentiellement par la mélodie, mais peut-être aussi par les modulations en intensité, par le passage dans des registres aigus, à une expression des émotions. Alors, est-ce que c'est le type par excellence de musique? Je suis pas sûre. Peut-être que de nos jours, on penserait aussi à des formes de lyrisme plus populaires, hein. Je sais pas, peut-être d'un côté plus kitsch. Je pense à Céline Dion, notamment. On a tout un ensemble de registres d'émotions, mais peut-être qu'en effet, dans le domaine de la musique classique, le 19e siècle est celui dans lequel on irait puiser spontanément.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le philosophe Vladimir Jankélévitch disait à propos de la musique? C'était dans une archive de 1974. Il disait que certains, notamment en France, certains intellectuels étaient insensibles à la musique. Moi, j'ai du mal à croire à ça. Est-ce que c'était pas une forme de snobisme de Jankélévitch, qui a aussi beaucoup écrit sur la musique, qui était aussi musicologue, de dire ça? Est-ce que véritablement des personnes peuvent être insensibles à la musique?
Alors, je pense qu'il y a deux questions que vous posez en une. La première concerne peut-être le milieu des intellectuels, et je me garderai bien de généraliser sur la sensibilité à la musique de mes collègues. C'est peut-être pas une chose dont on parle facilement. Effectivement, dans les milieux intellectuels, l'émotion est peut-être quelque chose à l'égard de quoi on a encore une certaine méfiance. Hein. On reste quand même dans ce règne de la raison qui contrôle les passions. Donc, je me garderai d'avoir un avis sur cette dimension-là de la question.
Mais sur l'insensibilité, en fait, moi, j'y crois pas du tout. On est tous sensibles, à la musique.
Alors, il existe des cas d'amusie, justement, où il est difficile de percevoir les hauteurs, je pense, et qui, du coup, ne sont pas restituées comme mélodie. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vu qu'il s'agit d'une forme de perception différente, je connais pas très bien ce cas-là, il faudrait approfondir, mais je pense qu'effectivement, les choses ne sont pas reçues de la même façon si elles ne sont pas structurées intérieurement de la même manière.
Mais alors là, il s'agit plus d'une sensibilité sensorielle. Alors là, peut-être qu'il faut définir ce terme d'être insensible ou sensible, notamment quand on parle d'émotion. Qu'est-ce qu'on entend là, à ce moment-là, quand on dit qu'on est sensible à la musique ?
Quand on dit qu'on est sensible à la musique, alors effectivement, vous faites bien de souligner la dimension à la fois perceptive, hein, le fait de cerner des rapports de hauteur, des rapports de rythme, d'intensité, et puis d'une deuxième manière, la façon dont tout cela va nous émouvoir, provoquer en nous un espèce de mouvement intérieur qui va faire que nos émotions seront agitées. Quand on dit qu'on est sensible à la musique, je pense que c'est tout simplement cette manière d'agir. Alors, si on se réfère à des théories philosophiques...
Vous pouvez y aller.
Je pense que je serais plus à l'aise plutôt que de dire si des gens le sont ou le sont pas. Je pense pas que ce soit à moi de statuer, mais en tout cas, la musique fait partie des arts qui ont d'emblée été théorisés en rapport avec les émotions, ce qui n'est pas le cas par exemple des arts visuels. En musique, dès l'Antiquité, l'idée c'est que c'est un art qui a une affinité particulière avec les émotions, avec ce qu'on appelle l'éthos, c'est-à-dire à la fois le caractère, mais la disposition à agir aussi. Et c'est assez symptomatique que les premiers textes dans l'Antiquité sur la musique parlent de musique dans une perspective politique et morale, c'est-à-dire qu'il s'agit de se dire... Comme on sait que la musique va affecter les gens et va les rendre soit surexcités, soit calmes, léthargiques et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cet art qui a ce pouvoir si impressionnant de moduler l'humeur des gens ? Donc c'est dans les textes politiques avant tout que Aristote et Platon abordent la question.
Ce qui veut dire qu'il y a presque une identité entre musique et émotion, de fait.
Alors de fait, dans ces théories antiques, on a une idée de l'éthos des modes. Les modes, c'est une manière de structurer les intervalles entre les notes. Hein. Maintenant, on a l'harmonie depuis un moment, mais à cette époque-là, on avait des sortes de gamme, hein, de manière de faire se succéder les notes. Et il y avait cette idée qu'il y avait une affinité entre l'âme et les modes musicaux, et que donc certains modes étaient plus à rapprocher du courage, d'autres plus à la tristesse. Et donc, à la fois, ils imitent des états d'âme, mais ils les suscitent aussi en retour.
Oui, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la musique est là à la fois pour exprimer, enfin, elle est là pour, je ne sais pas si justement c'est le but de la musique, mais en tout cas, elle exprime à la fois quelque chose qui est en nous et indicible, et en même temps, elle va produire, générer une émotion qui n'était pas encore là.
Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, bon, peut-être pas dans ces théories antiques, mais de manière plus contemporaine, c'est la manière dont il y a à la fois cette structure commune qui fait qu'on s'accorde assez spontanément sur le fait de dire qu'un air est mélancolique ou qu'un air est gai ou quelque chose comme ça. Et puis en même temps, ce que individuellement, en raison du caractère relativement abstrait de la musique, ce qu'individuellement on va pouvoir y projeter comme signification, comme expérience personnelle, qui fait que grâce à ce caractère relativement indéterminé, non figuratif de la musique, qui ne précise pas toujours le sujet dont il est question, on va pouvoir projeter ses propres histoires et peut-être avoir un rapport plus intime à ce qu'on est en train d'écouter.
Catherine Guedde, on va écouter un certain nombre de chansons, mais aussi en fait, on va dire de musique. On va tout de suite écouter une première chanson que vous nous avez conseillée, et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec Franz Liszt.
Thank you.
qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, Catherine Yed?
Alors, on était en train d'écouter Converge, effectivement assez loin de Franz Liszt. C'est un groupe américain issu du punk hardcore, proche du metal aussi. Et ce morceau qui s'appelle « All We Love, We Leave Behind » est sorti en 2012. Donc on voit déjà le titre assez mélancolique, une sorte de vérité, présente vérité générale. Hein. Tout ce que nous aimons, nous le laissons derrière nous. Et effectivement, ce qui m'intéressait dans ce morceau, c'est le type d'émotivité qu'il y a à l'œuvre dans un genre qu'on peut penser être du côté de la violence, avec ses guitares saturées, ce cri, quelque chose de très brut, et en réalité c'est un genre et un groupe qui invente des formes nouvelles pour certaines émotions, et dans ce type de musique, punk, hardcore, metal, ce qui m'intéresse, c'est comment justement on va trouver des manières d'exprimer des émotions qu'on trouve peut-être pas exprimées ailleurs, surtout des émotions à forte intensité. En général, la musique a tendance à, l'art en général, à essayer de polir un petit peu, de présenter une version épurée de la tristesse. Et ici, on a ce chant qui devient sanglot ou cri et qui se rapproche des formes quotidiennes d'expression des émotions, des formes qu'on essaye habituellement de ne pas présenter en public et qui ici deviennent vraiment un vocabulaire musical.
Est-ce que vous pensez, Catherine Guette, que la musique, dans son histoire, en fait, alors que ce rapport entre musique et émotion a été vu d'une manière plutôt suspecte, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet art qui est capable de provoquer la léthargie ou au contraire la joie ou la violence, est-ce que maintenant ce rapport-là, cette identité-là, cette dialectique même entre émotion et musique, elle est beaucoup plus assumé justement avec ce genre musical?
Oui, je pense absolument. Je pense
même
que
revendiqué.
C'est... Oui, alors d'ailleurs c'est amusant, une des autres raisons pour lesquelles j'avais choisi Converge, c'est qu'ils ont été proches au début d'un genre qu'on appelle le screamo ou le emo-core.
Donc le screamo hardcore... avec de scream.
Oui, voilà, du fait de crier, et puis emo-core de juste émotion. Donc c'est-à-dire on peut...
Ah oui.
Étaler ses émotions et faire du hardcore parce qu'on est quand même des durs, mais on étale nos émotions. Donc effectivement, dans ces genres-là, ces émotions sont pleinement revendiquées, acceptées. Je dirais peut-être qu'ensuite, toutes les émotions ne sont pas admises de la même façon. Il faudrait explorer la thèse selon laquelle certains genres explorent plus ou moins certains types d'émotions. Je pense que la pop n'a peut-être pas le même répertoire en type d'émotions que ce genre-ci, et inversement.
Alors ça, c'est très intéressant justement sur cette hiérarchie des émotions. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont bonnes ou mauvaises, selon peut-être tel type de genre musical, mais aussi qui sont bonnes ou mauvaises à exprimer à travers la musique, ou qui sont bonnes ou mauvaises à ressentir au contact de telle musique?
Vous voulez dire du point de vue de certains genres musicaux et
oui.
De leur code?
Par exemple, qu'est-ce qui est acceptable ou pas? On accepte par exemple, j'imagine, un épanchement courtois quand on écoute du Franz Liszt, et puis là, on accepte de hurler sa tristesse, ce qui ne serait pas acceptable dans l'un et l'autre cas.
Absolument, il s'agit effectivement de codes de milieu aussi, hein, qui vont avec des pratiques extra-musicales, l'écoute en concert de ce genre de musique qui peut aller avec du pogo, le fait que les gens se cognent les uns contre les autres, qu'il y ait des chaussures qui volent, des corps qui volent dans tous les sens, et tout un ensemble de choses qui, en bonne société, seraient relativement choquantes, devient dans ces concerts simplement ce qu'on fait, de la même façon que, je ne sais pas, chez certaines personnes, on enlève ses chaussures avant d'entrer, là on est dans un concert de punk, on pogote, c'est normal. Donc effectivement il y a des codes. Je pense que peut-être dans ces musiques là ce serait quelque chose comme de l'ordre de la frivolité ou de la légèreté qui serait moins bien intégré. Je sais pas si c'est une hypothèse, hein, il faudrait que j'y réfléchisse plus, mais je suis pas sûre que le hardcore ait le vocabulaire pour exprimer vraiment la légèreté. On est tout de suite dans l'intensité.
Et le rire par exemple, est-ce que ça c'est une émotion qui est accepté par exemple quand on va à un concert de Converge? Est-ce que c'est rigolo d'y être, ou est-ce que c'est vraiment juste un déchaînement de passion tragique? Je caricature.
Oui, non, mais je suis absolument d'accord avec cette optique. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'humour dans tout ce qui est hardcore de ce type-là. Mais dans des genres voisins, du côté du punk, il peut y avoir énormément d'humour, mais il y a moins ce cri qui est vraiment un sanglot. Je suis pas sûre qu'avec ce cri sanglot de Jacob Bannon, on puisse faire rire, en fait. On est trop dans quelque chose de l'ordre du tragique, effectivement.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Catherine Guette, c'est que non seulement il y a une hiérarchie des émotions, ou en tout cas une distinction des émotions selon les genres musicaux et puis selon les époques aussi, on imagine, mais ce qui veut dire que l'émotion qu'on ressent quand on écoute une musique, est-ce qu'on peut penser qu'elle n'est pas du tout pure, naturelle, mais en fait qu'elle est codifiée, qu'elle est presque produite ?
Alors, je pense qu'elle est produite et qu'elle est, aussi le produit d'une culture. C'est-à-dire que la manière dont les émotions sont codées musicalement n'est pas la même dans toutes les cultures, ce qu'on trouve triste ou joyeux. Et je pense qu'on peut affiner cette perspective au sein même de genres musicaux. C'est-à-dire que bon, moi, j'aime énormément du vieux punk rock californien des années 90, ce qui est normalement considéré comme honteux. Moi, j'adore ça. Et je suis capable de voir beaucoup de tristesse et d'amertume dans ce genre. Quelqu'un qui écoute ce genre sans le connaître trouvera qu'on a simplement de la légèreté, de la superficialité. Et donc, je pense qu'il y a aussi des sortes de grammaires à acquérir en fonction de genres précis pour saisir des nuances et des subtilités.
Ce qui nous relance en fait sur le vieux débat en philosophie entre une expérience esthétique qui serait subjective. Par exemple, vous voyez beaucoup vous voyez de la tristesse, de l'émotion dans ce rock-là, et d'autres en fait le voient plutôt comme un genre frivole. Ce qui veut dire que entre ce qu'on perçoit de manière subjective et la communauté esthétique qui peut se créer, comment va se faire la bascule ? Est-ce qu'une émotion, elle est forcément du coup subjective, naturelle, mais quand même produite, ou est-ce qu'elle est partageable ? Alors là, elle est complètement produite et codifiée, et la part personnelle reste minime.
Alors, ce que je proposerais, c'est un peu une sorte de mi-chemin qui est un peu la rencontre entre Kant et la sociologie du goût, en un sens. C'est-à-dire garder cette idée d'intersubjectivité, l'idée que quand on a un rapport...
Ça, c'est un grand concept chez Emmanuel Kant, dans oui. La critique de la faculté de juger, c'est l'intersubjectivité.
Oui, c'est ça. C'est l'idée qu'en fait, quand on est face à une œuvre et qu'on la juge belle, on a envie que tout le monde soit d'accord avec nous. Parce que on n'est pas face simplement à de l'agréable. Hein. L'agréable se rapporte à notre physiologie. Et donc, on n'exige pas que quelqu'un aime la réglisse quand on adore ça, parce qu'on sait que c'est du particulier. En revanche, ce qui est mis en œuvre chez nous face à une œuvre d'art relève plus de l'intellect et fait qu'on a envie de le communiquer et de le partager, et qu'on estime qu'en droit, les gens devraient être d'accord avec nous, même si on sait que dans les faits, ça ne se produit pas. Et je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est d'appliquer un tel cadre, mais à des communautés spécifiques, à ce qu'on peut appeler des subcultures, hein, des cultures minoritaires, pour voir comment, au sein de ce groupe, on peut se mettre à juger et à estimer que nos pères, qui ont la même expérience que nous, sans doute le même bagage musical, sont ou non d'accord avec nous. Et je pense que c'est ce qui se joue souvent, même à la sortie d'un concert. Hein, on discute et la discussion prend sens à partir du moment où on est dans un cercle d'amateurs qui ont les mêmes références ou non. Il ne s'agit pas du tout de snobisme, mais simplement du fait que, comme les choses sont codées, on ne va pas apprécier de la même façon ou non si on vient d'arriver ou si on a déjà une certaine expérience de tout ça.
Donc l'émotion ne se ressent pas seulement sur le moment, mais en fait, qu'elle soit d'ailleurs le fruit d'une production, qu'elle soit produit ou un résultat d'un milieu, et pas seulement non plus naturel, c'est aussi quelque chose qui se construit en fait à travers, on va dire, des discussions, à travers des expériences communes, à travers des gestes qu'on va avoir en commun. Vous parliez du pogo, j'imagine que la danse fait partie d'une émotion qui se crée collectivement.
Oui, en effet, je pense que c'est le résultat d'une culture, en tout cas que la culture conditionne la manière dont les émotions adviennent ou non. Et pour ce qui est du pogo, effectivement, c'est vraiment une pratique collective assez codifiée, hein, qui de l'extérieur a l'air violente, mais qui en réalité est un haut lieu de civilisation, dans la mesure où il s'agit toujours de ne pas faire mal véritablement, de prendre soin les uns des autres. Et ce qui me semble intéressant dans le pogo aussi, c'est que c'est une manière d'écouter avec le corps, de manifester ce qu'on éprouve en écoutant par le corps, que ce soit en levant les poings ou en se cognant. Et donc c'est aussi à l'extrême inverse du concert de musique classique assis où l'émotion est intériorisée, ou alors peut-être il y a une petite larme mais il faut qu'elle soit très polie. Là, ce déchaînement d'émotions qu'on trouve dans la musique se voit reproduit, réengendré du côté du public, par le biais d'une forme d'appropriation, et là c'est des choses qu'on trouve aussi dans les enquêtes sociologiques, la manière dont chacun va plaquer des significations en fonction de son propre vécu sur des morceaux, et peut-être avoir ça à l'esprit dans ces moments de pogo ou de danse, pour être comme dans une sorte de catharsis collective, mais qui se rapporte à des significations individuelles.
Il a plu sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu, 25 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant,
j'espère que vous pleurez tous derrière votre poste. C'était Nantes de Barbara. Alors, c'est amusant, Catherine Guette, parce que ça ne fait pas partie des chansons que vous nous avez suggérées pour cette émission sur pourquoi la musique nous fait-elle pleurer. Et quand on a commencé à diffuser les premières notes, vous m'avez dit, vous voulez me faire pleurer, mais oui, c'est totalement notre but. Alors, pourquoi cette chanson? Je pense qu'il y a effectivement toute émotion et culturelle produite, comme on l'a dit. Mais il y a quand même des consensus sur Barbara, par exemple. Alors peut-être que c'est un consensus franco-français, mais toute génération confondue, je pense que, enfin voilà, vous vous écoutez du punk, Converge, voilà, et là, Barbara, ça vous fait craquer.
Oui, oui. Oh, je suis restée, j'ai pas pleuré, hein.
Non, vous êtes bien.
Oui, pourquoi? Alors bon, il y a effectivement le rapport au texte, hein, qui est voilà. Important dans la chanson. Voilà, on sait de quoi parle ce morceau. Je pense la mélodie aussi, c'est monté dans ces aigus qui sont une sorte de... Généralement, les montées dans les aigus, c'est une intensification de l'émotion. Donc là, ça tire encore plus fort. Bon, la voix aussi, je pense, le timbre de Barbara.
Le fait qu'on connaisse Barbara aussi.
Et puis...
Qu'on soit touché par ce qu'elle a été, par ce qu'elle représente.
Oui, sans doute. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction dans notre écoute de tout ce bagage culturel, de tout ce qu'on sait au moment où on vient écouter. Donc peut-être qu'il y a aussi cet élément où on sait que Barbara a cette capacité d'écrire de manière très juste, très poétique sur l'émotion et qu'effectivement ça dispose à une certaine écoute.
Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, Catherine Guette, c'est le rôle des paroles, en fait. Est-ce que... En fait, qu'est-ce qui nous touche le plus quand on écoute une musique? Est-ce que c'est l'articulation entre les paroles et la mélodie, ou est-ce que c'est véritablement la mélodie? D'ailleurs, vous l'avez dit, en fait, sa voix tend vers les aigus. Est-ce que c'est presque une réaction physiologique, ou est-ce que c'est une du coup, pas une réaction, mais un sentiment, quelque chose qui est intellectualisé?
Alors, c'est bon, je vais retourner me réfugier derrière des théories philosophiques.
Mais oui, mais vous avez le droit.
Mais je pense que ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle fait ressortir une tension qu'on a sur le rapport entre musique et langage. C'est qu'il y a plusieurs... ça commence chez Rousseau, notamment. Il y a cette idée que la musique, la mélodie serait le vocabulaire naturel des émotions et que la langue, on trouve ça dans l'essai sur l'origine des langues, avant même de parler, on chantait. Alors, bon, c'est pas un avant chronologique, hein, mais en tout cas un avant logique, au sens où, voilà, la mélodie, le chant serait... le vocabulaire naturel des émotions qu'on comprendrait de manière plus immédiate que langage lui-même. Alors quand on vient mettre des mots, ça complexifie les choses puisqu'on a effectivement deux registres de sens, un qui est plus immédiat et puis un autre qui est plus de l'ordre qui fait appel à notre capacité langagière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les deux interfèrent et les deux peuvent se... renforcer mutuellement. Je pense que dans ce genre de cas, bon, je vous fais une réponse un peu centriste, hein, mais dans ce genre de cas, on a quelque chose qui, ben voilà, qui renforce l'expression.
Mais vous avez peut-être raison de me faire une réponse centriste, parce qu'effectivement, peut-être qu'il faut arrêter de penser l'émotion comme étant forcément du côté de l'intellect ou du côté du corps. Et est-ce que justement, la musique nous met pas face aussi à cette impasse qu'on essaye à chaque fois de trancher, à cette alternative? Voilà, qui ne se résout pas, qui est de vouloir savoir si l'émotion, c'est quelque chose de corporel et peut-être de dévaluer, ou est-ce qu'au contraire, l'émotion, quelque chose à réhabiliter parce qu'elle exprimerait quelque chose de plus intellectuel, ce qui reconduirait d'ailleurs une forme de hiérarchie entre l'esprit et le corps.
Alors oui, traditionnellement, en philosophie, on a eu cette espèce de méfiance à l'égard des passions, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à l'âge classique. Qu'est-ce qu'on fait des passions? Comment on fait pour les calmer, les dompter, les apaiser? Et puis là, de manière plus contemporaine, et puis on pourrait dire depuis le 18e, on a cette idée, et même on trouve ça chez Aristote, en fait, cette idée que les émotions sont pas forcément quelque chose qu'il faut chercher à dompter ou à éliminer, mais qu'elles ont comme une forme de sagesse en elles. Et que avec une certaine s'il y a une justesse dans l'émotion, si elle est appropriée, elle indique une voie à suivre du côté de la conduite. Il y a des colères peuvent être justes. Cette idée que voilà, il y a une voie morale presque à suivre avec les émotions. Et pour répondre à cette question de l'intellect, le corps, une émotion, c'est tout ça en fait. Il y a toujours une composante physiologique, quelque chose, je sais pas, une lourdeur dans la gorge, le cœur qui bat plus vite. Mais il y a aussi une histoire qui va avec, un contenu cognitif. Et donc, c'est vraiment cette espèce de complexe à la fois physiologique, intellectuel, qui fait l'émotion et dont on reconnaît de plus en plus de nos jours la sagesse en tant que langage du corps qui indique quelque chose qui est bon pour nous.
Et puis, il y a aussi ce paradoxe d'être pris par une émotion, d'être soumis à une émotion, mais qu'on a soi-même suscité, qu'on a soi-même recherché. Par exemple, écouter Barbara, c'est prendre l'initiative soi-même de souffrir. C'est-à-dire qu'on prend même du plaisir à être triste. Et ça, c'est une chose que seule la musique, ou peut-être l'adolescence aussi, et d'ailleurs souvent les deux vont ensemble, on adore écouter de la musique seule dans sa chambre pour se plonger dans ses émotions, mais c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir paradoxal à être mal, à être triste quand on écoute de la musique.
Oui, c'est tout le paradoxe de la tragédie. Pourquoi est-ce qu'on aime pleurer face au spectacle, là où on n'aime pas pleurer quand c'est notre vie qui va pas bien? Alors là, en musique, la réponse en général est un peu la même. C'est qu'on on peut avoir un peu la forme de l'émotion elle-même, sans pour autant avoir la raison concrète dans notre présent de pleurer. Donc il peut y avoir cette mise à distance de l'émotion par le fait que on sait que ce n'est pas une situation réelle qui est en train de la susciter, mais quelque chose d'autre.
En écoutant de la musique, j'ai eu cette sensation de cœur coupé en deux et même d'âme coupée en deux. Et ça m'est arrivé très jeune, vers l'âge de 6-7 ans, en écoutant une sonate de Schubert pour piano, la dernière sonate de Schubert pour piano. C'est mon père en fait qui m'a fait écouter cette musique. Et je me souviens qu'on était par terre en tailleur et il m'a vu me décomposer sur place, quoi. M'effondrer, devenir blanche. mais il me le raconte encore, hein. Il m'a dit que c'était en 2 minutes de musique, il m'a vu changer de visage, quoi.
Thank you.
il y a des déclics comme ça qui peuvent se faire très jeunes, ou après d'ailleurs, mais qui peuvent se faire avec des compositeurs, on a l'impression qu'on parle la même langue. Et là, j'ai eu l'impression de parler la même langue et de ressentir sa souffrance de façon la plus brute. Voilà, en plus j'avais très peu de vécu, à 6 ans, 7 ans, on n'a rien vécu, et bah je sentais cette souffrance immense, que j'étais à sa place quoi. Et d'avoir 6 ans et d'avoir l'impression d'un coup d'avoir vécu ça depuis un siècle.
France Culture. Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Oui, on est sur France Culture, on passe de Schubert à Lingua Ignota, Hutwall. Qui est Lingua Ignota, Catherine Gade? Alors là, c'est une de vos suggestions, je ne connaissais pas du tout, je découvre avec vous.
Alors, c'est une femme américaine, on était en train de se dire que la transition avec Schubert était un peu abrupte, mais...
Ça marche quand même pas mal.
Ça marche pas mal, et puis surtout, elle est formée, elle a une formation classique, elle est formée au chant lyrique aussi, bon, ça s'entend pas forcément dans ce morceau, mais elle a aussi des morceaux où elle sample du Bach sur de la harsh noise, donc voilà, c'est pas totalement... incohérent. Et donc Lingua Ignota, c'est le projet musical de Christine Heiter. Elle a choisi ce nom parce que c'est une langue inventée par Hildegard de Bingen, la sainte, la mystique chrétienne. Et bon, ça c'est issu de son premier album qui s'appelle All Bitches Die, en toute gentillesse, simplicité. Et c'est un album...
Je laisse les auditeurs et auditrices traduire par eux-mêmes.
Oui. C'est un album de vengeance, on peut dire. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que donc elle investit ses formes un peu de la harsh noise et des musiques extrêmes, ce cri qui est relativement peu investi par les femmes quand même, traditionnellement. Et elle réinvestit tout ça pour parler de problématiques spécifiquement féminines, de violence conjugale, de maltraitance. Et ce qui me semble très intéressant, c'est cette manière d'utiliser la violence sonore pour retourner une violence subie, vécue, puisque elle parle de sa propre expérience. Et voilà, de réutiliser ce que c'est que le volume sonore, le cri, tous ces moyens qu'on trouve dans la noise, dans le métal extrême. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que ça a été une fabuleuse entreprise de vengeance de pouvoir à la fois dire tout ça, et puis de pouvoir aussi l'exprimer et retourner la violence sur le plan symbolique, permis par un vocabulaire artistique.
Ce qui est frappant aussi quand on écoute les cris de la chanteuse, c'est presque cette langue déformée. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, on retrouve ce que vous disiez, Catherine Gade, sur l'émotion, l'intensité des émotions dans les genres musicaux actuels, notamment de ce côté-là. Mais cette déformation qui fait que l'émotion ne provient pas en fait de quelque chose de plaisant, d'agréable, mais vraiment de quelque chose qui heurte l'oreille et qui va vraiment presque, non pas seulement nous déchirer les oreilles, mais vraiment presque nous déchirer les entrailles. Et là, il y a vraiment une réflexion sur l'émotion que provoque ce type d'écoute.
Oui, c'est une émotion qui est déjà là dans le cri, effectivement. Il y a cette idée de violence déformatrice, c'est-à-dire que on n'est pas dans une expression polie ou lisse des émotions, on est à cet endroit où l'intensité de l'émotion déchire la forme expressive pour déchirer la voix, déchirer ce qui normalement normalement est du chant. Et puis d'un autre côté, effectivement, du côté de l'écoute, peut-être que traditionnellement on a l'habitude que être ému par la musique, ce soit dans un certain registre d'émotions, être triste, être joyeux, être très triste, mais quand même. Là, on bascule dans un autre type d'émotion, des émotions plus extrêmes, de l'ordre du malaise, du fait d'être bousculé. Et là, encore une fois, ce qui m'intéresse dans ces genres musicaux, c'est comment est-ce qu'ils vont chercher plus loin dans les émotions qu'on peut faire figurer musicalement.
Oui, il y a vraiment une précision, ou je ne sais pas comment dire, un élargissement des émotions, mais il y a aussi une autre matérialité de l'émotion. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une émotion qui est purement réfléchie, peut-être un peu contenue, c'est vrai, mais vraiment quelque chose de corporel. Et là, on en vient peut-être aussi... d'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que on n'a même plus de paroles, là. C'est presque des cris. Donc, on en revient à la matérialité du son. Et on en vient, en fait, à une émotion où on ne réfléchit même plus. On est juste traversé, en fait, par l'émotion.
Oui, on pourrait faire l'hypothèse que plus une émotion est intense, plus elle se manifeste corporellement et par une forme de dépassement du corps. Peut-être que c'est ça qui était craint dans les émotions traditionnellement. Mmh. Vraiment ce moment où le corps prend le dessus et menace de nous priver de choix.
Et j'ai une vraie question sur les modalités d'écoute de Lingua Ignota. Par exemple, vous, Catherine Guette, vous rentrez du travail et vous vous dites, tiens, je vais me faire un petit Lingua Ignota. Ou alors, est-ce que vous êtes déjà dans une disposition particulière? Est-ce que c'est une écoute qui est réfléchie? Est-ce que c'est une écoute détente, divertissante? Est-ce que c'est en faisant le ménage? Comment on écoute, en fait, cette musique-là?
J'aime beaucoup cette question parce que je pense que ce sont des choses qui varient avec le temps en fonction des gens. Je pense que peut-être si j'avais écouté ça il y a, je sais pas, 15, 20 ans, j'aurais été sous le choc et je me suis dit, ouh là là, c'est un peu trop intense. Maintenant, j'écoute ça pour travailler, de la même façon que j'écoute Converge ou de la Arch Noise pour travailler. Ce sont des choses qui me font du bien et dont j'ai l'impression presque qu'elles viennent absorber une sorte d'excédent d'émotion que je pourrais avoir. Donc ça peut presque avoir ce rôle un peu de régulation émotionnelle. Mais ce sont des choses sur lesquelles j'ai travaillé aussi en thèse, la façon dont l'écoute évolue avec le temps et dont, justement, pour des musiques qu'on dit extrêmes, comme le black metal ou la noise, les premières écoutes sont souvent des écoutes un peu de choc, de « oh mon Dieu, ça me secoue, je peux pas, il faut que je mette pause, je veux pas réécouter ça », ou alors j'y reviens mais dans 5 ans et avec quelqu'un avec moi. Et puis au fil du temps, il y a une familiarisation qui fait que on se situe plus à ce niveau de choc, mais on entend de plus en plus le côté chanson en fait. Voilà, il y a un refrain, il y a un synthé au début, comment ça monte. Voilà, donc des aspects de l'œuvre se révèlent avec le temps et les écoutes.
Alors j'aimerais vous faire écouter, vous le connaissez déjà, mais j'aimerais que les auditeurs et auditrices entendent cette musique que vous nous avez envoyée. J'avais pas prévu de la diffuser au début, je vous avoue, parce que je l'ai écoutée juste avant l'émission. J'ai trouvé ça particulièrement insupportable, mais je pense qu'il faut que ce soit une expérience qui soit vécue. Donc c'est le groupe, dites-moi si je me trompe dans la prononciation, Merzbo.
Oui.
Voilà. Et donc le titre s'appelle Ananga Ranga. Je vous promets, on n'en passe pas longtemps. Ça, c'est de la noise, littéralement du bruit. J'aimerais qu'on écoute maintenant un autre morceau de noise, parce que la noise, ça n'est pas que du pur bruit, c'est aussi autre chose et ça peut être ça. Donc encore de la noise, cette fois-ci c'était Secret Abuse Domino, donc deux formes de noise. J'avoue, peut-être que les puristes de la noise vont me détester, mais le premier titre que nous avons diffusé, qui est vraiment en fait comme une sorte de tambour, de lave-linge qui aurait déraillé, et presque, la première écoute que j'ai eue c'est au casque, et c'est presque dérangeant en fait, c'est plus que de l'inconfort, c'est vraiment du mal-être, et là le son devient presque une arme.
Oui, oui, merci de soulever ce point-là. Alors pour les auditeurs et auditrices de Noise, je pense que ce son n'est pas appréhendé comme une arme, il est vraiment appréhendé comme un ensemble de timbres qui sont intéressants, de dynamiques, de mouvements qui en eux-mêmes sont intéressants à goûter. Avec peut-être aussi parfois ce plaisir de l'absence totale de sens, c'est-à-dire oui. que ces bruits-là ne sont pas expressifs, on est hors de ce qu'on a l'habitude d'attendre de la musique, on a l'habitude que la musique ait une forme de sens, même si c'est un sens très vague, pas un sens déterminé comme dans les arts figuratifs, mais quand même. Et ici, il y a une totale absurdité de cette succession de bruits. Et puis peut-être aussi cette espèce de manière d'être un peu dépassée, une sorte de sursaturation sensorielle qui peut être un peu plaisante dans la mesure où on peut s'y noyer, on peut s'y perdre. Et là, on serait plus du côté de ce que Bataille appelle l'érotisme, du côté de cette espèce de zone un peu pulsionnelle, où on est en deçà du discours, on est en deçà du langage, du sens, et plus dans des pures sensations qui sont dans l'excès.
Ce qui veut dire que là, la musique n'est plus du tout un objet extérieur qu'on va écouter comme ça, en appuyant sur un bouton de manière un petit peu détachée, en se disant « Tiens, je vais me faire plaisir, je vais me mettre la larme à l'œil en écoutant un Barbara ». Là, c'est vraiment quelque chose où, en fait, on va s'immerger dans le son. Donc, ça suppose quand même une autre disponibilité. Est-ce que là, il faut l'écouter en concert parce qu'il y a une forme d'organicité, de communion collective? Ou est-ce que c'est vraiment une expérience dérangeante telle que je l'ai vécue, qu'il faut écouter au casque, au risque même de se blesser les tympans?
Je pense que, de fait, ce sont des musiques immersives, que ce soit au casque ou en concert. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces musiques-là sont enregistrées à même la table de mixage. C'est-à-dire qu'habituellement, on a des amplis qui sont spatialisés, puis on a des micros qui prennent le son dans la pièce. Ce qui donne l'impression d'un endroit quand même, et qui donne l'impression que l'enregistrement est le document d'un lieu, d'un moment. Dans ces musiques-là, on branche à même la table de mixage. Ça veut dire qu'on n'a pas de sensation d'espace et que c'est presque comme si la musique était déjà dans notre tête, en fait. Elle n'est plus dans un endroit. Donc c'est immersif à même l'enregistrement. Ensuite, de ce qu'on en a vu dans notre enquête avec Pauline Nadrigny sur la noise, l'écoute des amateurs et amatrices de noise est assez peu dans l'inconfort et est relativement plus dans le fait de goûter ces sons comme on goûterait un vin pour saisir les nuances, pour saisir toutes les subtilités qu'il y a à l'intérieur de ces timbres qui sont très riches. Donc cet inconfort, je dirais que l'écoute est peut-être surtout des écoutes ouvertes, un peu comme on trouve chez Cage, hein, où on essaye de ne pas juger mais de s'ouvrir à la richesse des bruits, permet un plaisir à ces sons qui font tout ce qu'on a interdit à la musique de faire pendant des siècles.
Donc le plaisir, il vient d'où aussi, en fait, de cet interdit-là, c'est-à-dire de se dire je transgresse quelque chose. Vous parliez de l'érotisme de Bataille, donc j'imagine qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transgression qui se joue. Est-ce que c'est le fait de revendiquer qu'on va aimer quelque chose qui peut déranger beaucoup de ceux qui écoutent de la noise? Est-ce que finalement, c'est presque de la distinction sociale aussi qui se joue? Parce que l'émotion, elle est aussi dans une multitude de facteurs, on peut dire.
Je pense que la distinction joue partout, ouais. Et sans doute chez les amateurs amatrices de noise comme ailleurs, hein, comme dans tout cercle. Je pense pas qu'il y ait d'endroit qui soit préservé de ces logiques-là. Après, j'irai pas jusqu'à dire que... ce serait qualifier le plaisir d'inauthentique, et c'est absolument pas le cas. Je pense que c'est vraiment une sorte de passion des bruits qu'on peut trouver chez les collectionneurs, par exemple. Cette espèce, j'avais fait un entretien avec un performer noise qui s'appelle GX Jupiter Larsen. Il m'avait dit, mais pour comprendre la noise, il faut comprendre que on a presque tous des fétiches, mais au sens où on a des obsessions sur des choses idiotes. Et il y a cette logique un peu vraiment de collectionneur et d'être complètement passionné par ce type de son. Et donc cette approche vraiment très, très curieuse à l'extrême de la diversité des bruits eux-mêmes.
Vous dites aussi, Catherine Guedes, dans votre livre, que avec la noise, la douleur n'est plus une limite en fait extérieure à la musique. C'est-à-dire que on n'écoute pas que ce qui nous fait du bien, mais en fait, on peut aussi prendre en compte la douleur comme une possibilité d'émotion qui n'était pas seulement exprimer une douleur de vengeance, comme on l'a entendu tout à l'heure avec Lingua Ignota, mais aussi une douleur qui va se manifester à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire que ça déplace fondamentalement la musique, l'empêche d'être à la place du divertissement.
Mais oui, ça va à l'encontre des définitions traditionnelles de la musique qui sont un peu, je ne sais pas si on remonte à Descartes, c'est l'idée d'arranger les sons d'une manière qui plaise à
Louis. De l'harmonie en fait.
Voilà, c'est ça. Et là, on sort complètement de cette ambition de plaire. Bon, c'est un mouvement qu'on retrouve dans tout l'art contemporain. Le XXe siècle s'émancipe un peu de cette exigence de plaisir. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'il y a plus une démarche un peu exploratoire, presque expérimentale, de voir ce qui se passe plutôt que d'exiger quelque chose de plaisant. Mmh. Et effectivement, dans des concerts à très haut volume sonore, on peut avoir des expériences dérangeantes, de squelettes qui vibrent, de nez qui vibrent.
Vous est déjà arrivé ?
Oui, il y a des concerts de son qui sont des concerts vraiment à très haut volume sonore avec des murs d'ampli, des fréquences très basses qui sont beaucoup plus tactiles et qui traversent tout. Et je me souviens d'avoir mis mon sac devant moi en me disant que ça allait me protéger, mais bien sûr pas du tout, le son traverse tout et de sentir ma cage thoracique vibrer. Et ce sont des expériences d'effraction un peu perturbantes, mais quand on y va d'une manière curieuse, il s'agit simplement de voir ce que d'autres formes artistiques immersives peuvent produire.
Ce qui est intéressant aussi, c'est ce travail sur le bruit. C'est-à-dire qu'on a parlé de la douleur, mais le noise, c'est vraiment du bruit. Et dans la deuxième chanson que j'ai diffusée, Secret Abuse, là, pour le coup, le bruit devient presque mélodieux. C'est assez dingue, en fait, de se dire que cette montée en puissance a quelque chose presque de l'ordre de l'onde qui est mélodieuse.
Oui, c'est un genre très différent de noise, puisqu'effectivement, on a une mélodie, et puis une mélodie vraiment classique, hein, une gamme descendante, répétée, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de choses harmonieuses dans leur plus pure, dans leur plus simple appareil, mais avec cette dégradation du signal. Donc, je ne sais pas exactement comment elle est engendrée, mais je ne sais pas si c'est de la cassette qui est enregistrée, mais en tout cas, un médium qui fait qu'on entend ce bruit par-dessus. Et à mon sens, quand j'écoute ça, à mon sens, il y a quelque chose d'assez nostalgique qui cumule ces espèces de mélodies infantines, de mélodies d'une simplicité infantine. Et puis d'un autre côté, l'idée qu'elles sont inaccessibles, qu'elles sont comme sur un médium qui est déjà dégradé, qui est déjà passé dans le temps. Et c'est quand même une sorte de manière de faire un retour sur l'histoire de la musique où tout ce qui est harmonie, tout ce qui est mélodie au XXe siècle devient du point de vue du matériau musical une chose du passé. Et là, on le revisite, mais avec toute cette distance qu'introduit le médium et la dégradation du signal.
On va écouter encore un titre de musique que vous nous avez indiqué, Catherine Guedes, c'est Yellow Swan. C'est aussi de la noise et ça s'appelle Going Places. Donc là, c'est toujours de la noise, mais c'est beaucoup plus doux, finalement. C'est presque C'est presque des bruits blancs, vous savez ce qu'on met. Alors sur Spotify, pour ceux qui ont des nouveau-nés, je ne sais pas voilà, si vous le savez, il y a des playlists de bruits blancs qui sont mis au point pour endormir les enfants. Et donc, par exemple, j'imagine que ce genre de bruit qui revient, qui est assez doux, je suis sûre que ça permettrait à des nouveau-nés de s'endormir. Et ce qui revient aussi à ce que vous disiez, Catherine Guette, sur cette simplicité enfantine. En fait, il y a quelque chose de revenir en fait, presque à une forme de comment on pourrait dire, de forme brute du son.
Oui, et à revenir aussi à l'existence du sonore indépendamment du domaine musical. C'est bon, c'est tout ce que dit Cage, hein. C'est l'idée que à ne considérer comme musical que la musique, les compositions instrumentales, on s'est coupé du reste du monde sonore et qu'il y a quelque chose de très fort à porter notre attention à ce domaine-là. Les bruits de l'environnement, les bruits urbains, le son de la mer, tout ça sont aussi des choses qui font partie de notre expérience et qui peuvent aussi susciter certains états, certaines émotions. Et donc là, on aurait presque un pont qui serait comme une invitation à élargir notre écoute à ce domaine-là aussi.
Ce qui veut dire qu'il faut élargir la question et dire, quand on dit pourquoi la musique nous fait-elle pleurer, ça voudrait dire pourquoi la musique, sous-entendu tous les sons, même le bruit, pourquoi tout ça nous fait pleurer, ou est-ce que finalement il faut abandonner l'idée de musicalité pour revenir en fait à une forme de primauté du son? Est-ce que c'est le son? En fait, est-ce que c'est par l'ouïe, grâce à l'ouïe, qu'on est le plus ému?
Effectivement, c'est un peu tout le problème du XXe siècle d'élargir la musique à l'ensemble du domaine du sonore et du bruit et à l'extra-musical. Donc c'est ça qui devient compliqué au XXe siècle. Quand on parle de musique, on a une multiplicité de formes et puis on a cette intégration du bruit. On a le field recording qui va importer des sons naturels. Donc le domaine musical est devenu particulièrement étendu. Donc en ce sens-là, on pourrait reposer la question de cette manière-là. Ensuite, pour ce qui est du sonore, il y a effectivement cette phrase un peu bateau qu'on dit souvent, mais qui est que les oreilles n'ont pas de paupières. En effet, tout ce qui est de l'ordre du son arrive comme quelque chose d'ambiant auquel on peut difficilement échapper. Et de ce fait, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une effraction qui peut moduler les humeurs, qu'on le veuille ou non. Dans un environnement donné. Donc il y aurait peut-être cette première dimension, puis la dimension physique du son aussi. Vous parliez tout à l'heure du son comme arme. Effectivement, les armes sonores reposent sur le fait que le son est avant tout une vibration de l'air qui peut nous affecter sur le plan de l'audible. Mais il y a aussi tout un ensemble de sons qui ne sont pas audibles pour nous, les infrasons, les ultrasons, et qui peuvent avoir un effet très réel sur notre corps, sur notre état physiologique.
Oui, d'ailleurs, il faut quand même qu'on évoque justement, alors là, on est loin justement du côté musical, hein, du son et de l'émotion, de la belle émotion. Enfin, on a quand même commencé par Franz Liszt, on a écouté du punk, de la noise, on a écouté Barbara. Et effectivement, il y a quelque chose où là, on est très très loin de ça, c'est quand même... la musique, par exemple, je pense au métal qui est diffusé à fond, par exemple la prison de Guantanamo, ou même par exemple des... Alors là, par exemple, c'est vraiment un véritable détournement de la musique, mais il y a aussi des sons, des alarmes qui sont mis très forts, qui sont juste des perturbations, où là, en fait, c'est vraiment une manière de soumettre l'individu. Et donc, il y a presque un paradoxe là de cette émotion qu'on recherchait, qu'on avait sublimée, qui devient en fait une arme contre soi-même, de la torture en fait, on peut dire.
Effectivement, il y a un peu l'idée que c'est un outil à double tranchant qui peut être là pour exprimer les émotions les plus sophistiquées ou les plus fortes et pour nous permettre de les partager en communauté. Et puis d'un autre côté, des éléments propres à la musique qui peuvent être retournés comme armes. Alors sur la question de la torture, ce que j'avais lu sur Guantanamo, c'est que c'est pas forcément que du métal. Ça peut être n'importe quel type de musique. Ça peut être du Britney Spears. Enfin, c'est
Que c'était quand même des musiques un petit peu tonitruantes.
En fait, c'est la diffusion à haut volume sonore et de manière répétée. Mais on peut prendre n'importe quoi, à condition de le répéter, de le mettre très fort. ça rend fou de toute façon. Donc c'est pas
et à n'importe quelle heure, sans être prévenu, c'est-à-dire que sans qu'il y ait par exemple sans que ce soit diffusé à 10h, midi, 14h, mais au contraire à 10h, 13h01, 14h50, donc à des heures qui ne sont pas parfaitement à intervalle égal.
Oui, le caractère d'interruption est aussi quelque chose de relativement violent. Donc il y a cette utilisation de la musique. Ensuite, il y a un super livre de Juliette Volclair qui s'appelle Le son comme arme, qui parle justement de tout ça et de voilà, de l'utilisation des ondes sonores comme arme physique dans la bande de Gaza par exemple, tous ces sons qui font qu'on a des nausées, des maux de tête, qu'on a l'impression que tout est en train de s'effondrer alors qu'en fait c'est juste des sons non audibles, qui est très bien là-dessus sur voilà, la matérialité du son et puis d'un autre côté comment la répétition, l'interruption, le haut volume sonore peuvent nous rendre fous.
Merci beaucoup Catherine Guette. De vous on peut lire donc Penser avec le punk, c'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, c'est paru aux éditions PUF et puis coécrit avec Pauline Nadrini, The Most Beautiful Ugly Song in the World, à l'écoute de la Noise, c'est paru aux éditions MF. On va se quitter, il nous reste à peu près une minute, alors qu'est-ce que vous voulez écouter pour finir? Céline Dion, Renaud, Daniel Guichard ou Dalida?
Allez Dalida.
Allez Dalida.
De larmes, des millions de pleurs ont noyé mon âme, ont noyé mon cœur, et j'aurais beau faire, le temps passera, triste et solitaire, à pleurer pour tout. Tu ne sais pas, mon grand amour.
Merci à l'équipe de Sans oser le demander pardon d'interrompre Dalida, des millions de larmes, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Louise André, prise de son Marie-Claire, Oumabadi, à demain sur France Culture.